L'effort, c'est la difficulté, pas la démocratie.
Qu'est-ce qu'on comprend?
Rien.
Tu sais même pas si tu as droit ou pas à quelque chose.
Il y a une partie de la population, et particulièrement ceux qui sont, comme on pourrait dire, en bas de la pyramide ou en bas de l'échelle, non seulement qui ne comptent pas, mais j'ai presque envie de dire dont on n'a pas envie de tenir compte de la réalité.
Et puis de toute façon, on peut voter pour qui on veut, c'est toujours la même chose.
La première, démocratie en question, Arnaud Reusson.
En théorie, en démocratie, surtout depuis l'avènement du suffrage universel, chaque citoyenne, chaque citoyen en âge de voter a voix au chapitre. Une voix égale une voix, que vous soyez riche, pauvre, jeune ou vieux, votre vote pèse le même poids. Sauf que dans les faits, certains se sentent eux-mêmes hors du jeu démocratique. Inaudibles, invisibles, oubliés dans toute une série de décisions. Alors, sentiment ou réalité? Arrêt chez celles et ceux qui finissent par se sentir eux-mêmes illégitimes.
Quand on a besoin d'eux, ils sont pas là.
Deuxième épisode, les oubliés de la démocratie.
Je suis Arnaud Reusson, journaliste à la RTB.
Ah oui, c'est ça.
On vous avait dit, je pense, que...
Que vous veniez pour un reportage radio, c'est ça ?
Exactement.
Jeudi 10 juin 2021, il est 8h30.
D'accord.
Et je pousse la porte du bâtiment Entraide des Marolles, à Bruxelles.
Entraide des Marolles, bonjour.
Un bâtiment unique qui rassemble toute une série de services sociaux différents et complémentaires à destination des plus défavorisés. François Beaufailly, le directeur, me présente les lieux.
Alors, la particularité de l'Entraide des Marolles, c'est que nous avons dans le même bâtiment quatre grands services. Donc il y a une maison médicale, il y a un service d'action sociale globale, qui est composé de 8 assistants sociaux qui font de la permanence tous les matins de 9 à 13 heures et puis des suivis et de l'accompagnement de tout style à d'autres moments de la semaine. On a un service d'aide psychologique et alors on a le dernier projet qui est l'école de français, donc qui a démarré il y a 10 ans. Et donc là on donne des cours d'alpha, alors pour tous les publics, donc c'est ouvert à tous.
Ça, c'est le deuxième. Okay,
tu peux faire le deuxième. Alors, ce qu'on va faire maintenant, tu l'as mémorisé?
Oui.
Je prends le café, je m'occupe de ma fille, je fais le ménage, je vais au supermarché, je fais la cuisine. Après...
Dans la salle d'attente se croisent des personnes au profil très différent. Elles viennent chercher réponse à des problèmes très concrets.
Ah, je pense un test et un quarantaine. Si tu mets le test de liste à la maison, oui. Si tu mets comme ça, un test pour le laboratoire, un test de la maison, si c'est comme ça.
Une semaine après, et l'autre après une semaine.
Un dans une semaine.
J'ai envie de nouer le contact avec ceux et celles qui se croisent dans ce couloir, de les interroger sur leur vision de la démocratie, mais ce n'est pas simple.
Est-ce que je peux vous enregistrer un petit peu là-dessus ? Non, vous préférez pas ?
Oui, j'ai d'abord réglé mes problèmes. Je joue mes problèmes. Il y a 20 ans aussi, j'en ai réglé.
Heureusement, le jeudi, c'est aussi le jour de la pause café, à quelques pas de là. L'une des psychologues actives au sein d'Entraide propose de m'y emmener.
Alors, on va rejoindre les habitants au cours de la pause café qui est organisée par le projet de cohésion sociale d'Habitat et Rénovation.
Au milieu de deux immeubles de logements sociaux, sur une petite place baignée de soleil, une table, deux grands thermos de café et une dizaine d'habitants en compagnie de deux animateurs sociaux.
Ça va mieux ? Avec le soleil, ça va mieux.
C'est pas sa faute s'il n'a pas de caméra avec.
Je te demande pas qu'il ait une caméra, moi.
Non, c'est juste pour donner, c'est juste la radio, c'est juste pour écouter.
La radio.
Et du coup, j'en profite pour lancer la conversation sur la démocratie.
On dirait que la démocratie, c'est le pouvoir.
Tu sais, la vérité n'est pas toujours bonne à dire, hein. C'est pas bon de dire la vérité.
Ouais. La démocratie, c'est pas pour le peuple, c'est pour les dirigeants.
Voilà, pour les dirigeants.
Parce que ça convenait aux riches. Mais le pauvre, ben...
Ça, c'est en France. Hein.
Non.
Voilà. Pour les pauvres, c'est la difficulté, pas la démocratie.
Le ton est donné. Le sentiment de ne pas avoir accès à la table de la démocratie est très présent chez tous les participants.
Non, parce que moi, j'essaie d'atteindre le bourgmestre et je n'arrive pas à l'avoir.
Klaus,
mais bien sûr, je n'arrive pas à l'avoir.
Je voudrais quand même ajouter une chose à ça que madame dit. Et c'est vrai, les gens qui ne maîtrisent pas le digital, les ordinateurs ici et ça, on se sent tout à fait mis plus dehors. Parce qu'avant, le politicien était obligé de venir pour consulter les gens. Maintenant, tout se passe digital et on n'a plus... on ne rencontre plus, c'est juste mon petit...
On avait des réunions, tu te rappelles ? On avait des réunions et on donnait notre avis à propos des constructions, ce qui n'était pas bon, puisque nous, on vit dans le milieu, on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Eh bien, ils n'ont pas tenu compte du tout. Hein.
Le peuple comme nous, qu'on n'est pas con, mais on, depuis qu'on était jeune, on ne connaissait pas ça. Alors, on était tout à fait mis de côté, maintenant.
Vous votez encore?
Non, moi, je ne vote plus. Moi, j'envoie un certificat. Bon.
Le problème est...
Et puis, de toute façon, on peut voter pour qui on veut. C'est toujours la même chose.
Et vous votez, vous, monsieur?
Non. Je refuse carrément.
Et pourquoi?
Parce que
vous n'êtes pas content sur certaines choses, j'ai compris. Donc c'est pas une façon de faire changer.
Ma voix ne sert à rien. Parce que ils font quand même ce qu'ils veulent.
Et vous votez, vous, monsieur?
Oui, monsieur, moi je vote et j'y tiens à ma vote, d'aller voter. Surtout, j'essaye de voter pour une personne, c'est pas toujours possible, mais pour une personne que je connais et selon le travail qu'ils ont fait. Alors, je suis assez bien à la politique, c'est un fait, mais je ne peux pas dire que j'appartiens à aucun parti. Je vais dans tous les partis des bons et des choses moins bonnes. Alors, j'essaye de voter pour des personnes que je connais.
Ouais. Madame, je peux vous poser la question? Est-ce que vous votez, vous, quand il y a des élections?
Obligé, pour ne pas avoir 500 euros d'amende. Ça ne sert à rien.
Pourquoi ça ne sert à rien?
Parce qu'ils sont déjà prévus à l'avance qui va être ministre, qui va être bourgmestre. Tout ça est déjà prévu à l'avance.
Alors en même temps, s'il y a plus de gens, à un moment donné, qui votent pour des partis à gauche, il y aura plus de partis à gauche au gouvernement. Ou à droite, il y aura plus à droite, non?
Bah non.
Dans tous les gouvernements, dans tous les banques, ce n'est que des magouilles. C'est tous des magouilleurs.
Vous êtes sûr de ça?
C'est sûr et certain.
Donc vous votez, vous, alors?
Obligé. J'ai pas encore envie de payer un procès, parce que si tu ne votes pas, tu dois aller, tu payes un procès.
Et pourquoi vous ne vous présentez pas alors, si vous trouvez qu'il n'y en a aucun qui va...
36 ans, je vais me présenter, allez, c'est bon.
Beaucoup de ceux qui se retrouvent ce matin-là sont pensionnés. Et dans leurs mots, la difficulté à gérer toute une série de démarches administratives revient sans cesse.
Et on n'a pas grand-chose. Ils ont dit qu'ils allaient augmenter les pensions. Oui, j'ai été augmentée, 7 euros.
Ah bon?
Avec ça, je vais faire des folies. Hein.
Moi, j'ai été augmentée de 20, donc je suis privilégiée.
Moi, j'ai été augmentée de 7 euros. Et ensuite, je suis en train d'expliquer à madame.
Et mon frère,
moi, j'ai une macula. Donc, prouvez. Je suis en train de devenir aveugle. Tout doucement, mais je deviens aveugle. Je vais à la clinique, ici à Saint-Pierre, soi-disant qu'elle est pas chère. Je paye à l'inscription 23 euros. Quand j'ai eu fini la visite, j'ai demandé combien je dois. On m'a dit non, rien du tout. Par contre, j'ai reçu une note chez moi. Écoutez bien, hein, 3,50 euros. Oui, mais il faut aller à la poste, payer le timbre. Et ensuite, j'ai encore reçu une deuxième note de 25 euros. Vous n'allez quand même pas venir me dire qu'en étant VIPO, hein, que la mutuelle intervient dans ce bazar. Mmh. Alors, combien le docteur il est payé, alors?
Et ça, c'est précisément le genre de problème et de situation que certains habitants du quartier viennent évoquer à la permanence sociale mise en place par Entraide.
Donc, moi, c'est Ingrid Gabrielle, je suis assistante sociale ici à l'Entraide des Marolles.
Et des incompréhensions par rapport aux démarches administratives, Ingrid Gabriels en voit passer tous les jours.
Ça peut concerner des questions administratives ou tout simplement un courrier qu'on a reçu et qu'on ne comprend pas. Ça peut être des informations sur un dossier bloqué au niveau du chômage, des questions relatives aux allocations familiales ou à la reconnaissance d'handicap. Donc ça part vraiment dans tous les sens. Donc c'est un service généraliste.
Dans ces démarches, le problème se situe souvent à plusieurs niveaux.
Donc il y a un problème d'information. Donc soit on ne dispose pas de l'information. Quand on l'a, il faut encore pouvoir la comprendre, ce qui n'est pas évident, avec le degré d'éducation, mais aussi parfois avec le français, si elle ne constitue pas la langue maternelle. Il y a aussi la difficulté, la complexité de toutes les démarches liées au recours. Le fait de faire valoir son droit, c'est effectivement quelque chose qu'on rencontre tout le temps.
Donc il y a pas mal de gens qui, en fait, parfois ont droit à certaines aides, à certaines réductions, à certains dispositifs spécifiques, et qui ne les utilisent pas.
Oui, ils ne les utilisent pas parce qu'ils n'ont pas l'information, comme je le disais, soit parce qu'ils ne comprennent pas le type de procédure, le type de démarche dans laquelle ils doivent s'engager, ou ils se découragent parce qu'ils ont une vision négative aussi des institutions publiques. Ces institutions sont souvent vécues un petit peu comme hostiles. Et je remarque aussi que, vu la quantité parfois de documents qui leur sont demandés, ils sont découragés à l'avance. D'autant plus que si on demande le bénéfice d'un droit, on peut supposer qu'on est déjà dans une situation de précarité ou de mal-être psychologique ou ayant des problèmes de santé. Donc on est déjà fragilisé au départ et ça demande une énergie incroyable pour faire valoir ces droits.
Ce problème de non-recours aux droits, il est souvent pointé par les associations et acteurs de terrain. Selon le service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, en Belgique, c'est une personne sur deux qui n'aurait pas recours aux prestations sociales, financières ou aux services dont elles peuvent pourtant bénéficier parce que pas au courant, parce que découragée par l'ampleur des démarches, voire pour une raison bien plus profonde encore.
J'ai l'impression que beaucoup ne se sentent pas légitimes dans la démarche qu'ils peuvent entreprendre. On en a parlé parce qu'ils se sentent déjà fragilisés au départ, peut-être parce qu'ils sont d'origine étrangère ou parce qu'ils sont illettrés. Ils ne se sentent pas légitimes d'aller au bout de leur démarche.
Parce qu'ils ont peur que ce soit perdu d'avance quelque part ou que ce soit tout simplement pas pour eux?
Parce que c'est perdu d'avance, parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont peur d'avoir des ennuis en retour, parce qu'ils ont peur de l'image qu'on peut avoir d'eux, de l'image qu'ils peuvent renvoyer. La démarche au CPS, pour beaucoup de personnes, reste très compliquée.
Cette situation, elle a aussi été exacerbée par la crise sanitaire qui a touché quasi tout le monde, mais qui a fait encore plus mal à ceux et à celles qui étaient déjà en situation précaire. Avec des décisions qui ont parfois semblé déconnectées des réalités vécues dans les quartiers populaires.
Les magasins de bricolage et les jardineries pourront réouvrir leurs portes. Les distances de sécurité devront donc être d'application.
Il sera également permis de pratiquer d'autres activités sportives, l'athlétisme, la pêche ou par exemple même le kayak.
On est d'ailleurs retourné voir l'une de celles qui a souvent dénoncé cela au fil de la crise, dans les médias mais aussi à la table des experts qui ont conseillé le gouvernement.
Donc mon nom est Céline Nieuweneus et je suis secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, qui est une SBL qui représente les travailleurs sociaux, tous les métiers du lien de première ligne qui travaillent avec les publics les plus fragiles.
Et Céline Nieuweneus estime qu'on peut vraiment parler aujourd'hui de toute une série de personnes oubliées ou invisibles dans nos démocraties.
Oui, il y a une partie de la population, et particulièrement ceux qui sont, comme on pourrait dire, en bas de la pyramide ou en bas de l'échelle, non seulement qui ne comptent pas, mais j'ai presque envie de dire dont on n'a pas envie de tenir compte de la réalité. Ça veut dire que ce n'est pas simplement qu'ils ne sont pas impliqués dans les décisions, c'est que la manière dont les décisions vont les impacter n'est pas prise en compte. Et je trouve qu'on a vécu ça très très fort pendant cette crise-ci. toutes les décisions qui ont été prises, en fait, sont prises par des personnes qui souvent, d'ailleurs, ne vivent pas l'impact des décisions qu'ils prennent. Donc les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui sont dans une certaine situation, souvent un peu privilégiées, souvent un peu à part quand même, au vu de leur niveau socio-économique, qui fait que quand ils prennent une décision, ils ne prennent pas la mesure de comment cette décision va impacter les autres, vu qu'elle ne les impacte souvent pas vraiment. Ça veut dire le fait, par exemple, de devoir rester cloîtré dans son quartier pendant la crise, le fait de devoir rester chez soi. Oui, ils vont devoir en partie le faire, mais ils vivent dans des conditions qui fait que ce n'est pas trop compliqué. Ceux qui vivent les décisions politiques dans leur chair, quelque part, sont les personnes les plus fragiles, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau des politiques d'alimentation. Enfin, il y a toute une série de mesures qui vont impacter beaucoup plus les personnes les plus fragiles. Et rarement, on prend leur situation en référence pour évaluer la politique.
Pour Céline Niwanoy, c'est notamment lié à la façon dont se prennent les décisions politiques aujourd'hui. Elle s'appuie pour cela sur ce qu'elle a pu observer pendant la crise Covid, quand elle était membre du groupe d'experts sur la stratégie de déconfinement.
J'imagine que moi, ce que j'ai vécu en tout petit, en 6 mois, est-ce que doivent vivre des ministres au fédéral, même aux régions on est, comme je le dis, dans une tyrannie de l'efficacité, donc il faut que ça avance. Et alors, le temps est tellement compté qu'on prend ce qui vient à soi, ce qui est là devant notre porte. Et donc, ce qui est là devant notre porte, surtout quand on ne vit pas dans un quartier comme dans un quartier précaire, ce qui est là devant notre porte, ce qui vient à nous, ce qui fait du bruit dans nos oreilles, dans notre téléphone, eh bien, c'est ceux qui ont le temps de faire ça. C'est ceux qui ont le temps de faire du lobbying.
Réveillons-nous tous ensemble pour crier notre désespoir. On ne peut plus payer ces charges.
Après de longs mois de fermeture et face au manque de perspectives, le monde de l'Horeca veut se faire entendre.
Vraiment, le secteur ne pourra pas attendre, on va dire, 5, 6, 7 semaines de délai, puisqu'il n'y a que 10, 15% on va dire, de l'Horeca qui a une terrasse et qui va pouvoir, on va dire, s'organiser pour retravailler.
En toutes circonstances, toujours, battons-nous pour que la culture existe.
Aujourd'hui, on veut que la culture puisse réouvrir, puisse revivre, que les artistes puissent retravailler.
Certains secteurs se sont fait régulièrement entendre au fil de la crise. Mais la voix des plus précaires, elle a eu du mal à parvenir à l'oreille des décideurs.
Les gens sont occupés à autre chose et on le voit. J'ai l'impression que c'était encore différent peut-être il y a 20 ans, où il y avait un investissement important dans des mouvements d'éducation populaire, d'éducation permanente, etc. Aujourd'hui, la complexification de l'accès au droit fait que beaucoup de professionnels le disent et beaucoup de personnes le disent. Vivre la précarité, c'est presque un boulot à temps plein aujourd'hui. Donc c'est aller faire la file au collier alimentaire, c'est aller faire la file pour inscrire son enfant à un stage pas cher, c'est aller faire la file à la commune, c'est passer des heures de coup de fil pour obtenir des droits, pour comprendre ses factures d'eau, d'électricité. Et en fait, ça laisse plus beaucoup de temps. Ça laisse plus beaucoup de temps pour se mobiliser et donc ça laisse plus beaucoup de temps pour s'organiser. Et ça nécessite une organisation de faire entendre sa voix. C'est pas si évident. Même les travailleurs sociaux, qui sont quelque part les premiers témoins de ce que vivent les personnes dans la précarité, je suis souvent étonnée du fait qu'ils ont de moins en moins de temps pour s'organiser entre eux, pour faire remonter ce qu'ils voient de ces vies fragiles et des problématiques qui sont là et qu'il faut régler avec urgence.
Je trouve quand même ce constat surprenant. Alors qu'il y a à la table plusieurs partis de gauche et que, même dans notre société de plus en plus dépilarisée, il reste des relais, syndicats, mutuelles, associations proches des partis pour faire remonter justement toutes ces préoccupations. Je profite de ma rencontre avec le philosophe Vincent de Corbitaire quelques jours plus tard pour lui poser la question. Il est un des meilleurs spécialistes de la politique belge et lui n'est pas du tout surpris que beaucoup de personnes précaires aujourd'hui se sentent politiquement oubliées.
Je ne suis pas surpris qu'elles aient là le sentiment d'être négligées. Ça n'est pas la tendance de fond de l'évolution de nos sociétés depuis des décennies dominées par le néolibéralisme et la rigueur imposée aux finances publiques. Ça n'est pas la tendance de fond que de se préoccuper des plus faibles. Les inégalités ont considérablement creusé les écarts.
Est-ce que notre démocratie s'est un peu embourgeoisée dans son fonctionnement ?
Inévitablement, parce que la société elle-même s'est embourgeoisée. un parti politique aujourd'hui qui ne voudrait jouer que la carte des couches populaires les moins favorisées, il a un potentiel électoral qui est nettement plus faible qu'à une certaine époque où rien que la classe ouvrière pouvait représenter plusieurs dizaines de pourcents. Mais aujourd'hui, sociologiquement, c'est ça le problème. Les difficultés sont aggravées par rapport à des périodes qui paraissaient beaucoup plus prometteuses. La situation est largement aggravée, mais le socle électoral s'est réduit et il s'est aussi complexifié. Ce sont des catégories sociales multiples. Ça n'est pas les travailleurs qui ont un trop petit salaire. Tout ce dont on parle, ce sont aussi des tout petits pensionnés, ce sont des indépendants qui vivent avec des pensions très faibles, ce sont des mères de famille, des personnes isolées, etc., etc. Et donc, oui, je pense que c'est un des nœuds de nos difficultés que de ne pas donner assez de place effective, visible à ce type de catégorie.
Céline Niwoneuz ajoute, elle, encore une autre clé de lecture pour interpréter ce manque de prise en compte politique.
En fait, même dans les partis de gauche, on reste sur une vision relativement paternaliste de la pauvreté. Et si je sens une volonté de faire plaisir aux gens, de les accueillir bien, de faire des ateliers cuisine couscous le dimanche après-midi, etc., je ne sens pas toujours de manière forte, radicale et volontaire une vraie volonté d'inverser la tendance. Et donc, pour moi, ça n'avance pas parce que même dans des partis de gauche, on commence à douter un peu parfois de l'importance que les gens s'activent. À douter dans le mauvais sens du terme, je dirais moi, mais je sens que quand même, on se dit que si les gens se bougeaient un peu plus, ils pourraient s'en sortir. Et que quand même, on se dit que la charité, l'écolier alimentaire... c'est quand même pas mal. J'entends plus ça que de dire c'est bien un accès à l'alimentation pour tout ce qu'il faut construire et sortir de cette dynamique de charité qui est pour moi paternaliste en fait. Et donc je trouve qu'il faudrait être très très radical, et il y a des projets qui le sont, comme le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Il y a des projets très radicaux qui peinent à se faire une place parce qu'ils changent un peu la vision des choses.
La première, démocratie en question, Arnaud Reussen.
L'enjeu, pour Céline Niwoneuz, comme pour beaucoup d'acteurs des services sociaux d'ailleurs, c'est de penser des politiques qui ne viennent pas seulement donner une aide en perfusion, mais qui permettent à chacun, même aux plus précaires, même aux invisibles, de prendre leur place, vraiment, de citoyens actifs dans la société. C'est l'objectif d'ailleurs de projets innovants menés par le secteur associatif, et on décide d'aller en voir un. Direction Kureghem, sous l'immense auvent des abattoirs d'Anderlecht en région bruxelloise. J'arrive un mercredi matin, en pleine effervescence.
Donc on arrive où là ?
Ceci, la Dream Kitchen, le cœur de Kureghem, nos cuisines mobiles et nos petits cuisiniers, avec des groupes de partout en train de préparer des merveilleux lunchs pour tout le monde qui veut ce midi. Willy.
On y retrouve Yannick Rouls. Il est le responsable de l'association Kureghem, une association dont l'objectif affiché justement est de construire une société où chacun trouve sa place, où chacun peut se sentir chez soi, participer et partager des expériences.
C'est une belle journée à Kureghem. Il y a la Dream Kitchen, où justement à base des invendus qu'on a récupérés le dimanche, ils sont en train de préparer un délicieux lunch. C'est une équipe de bénévoles. Cet après-midi, il y a le terrain de jeu ici sur l'abattoir avec les animateurs, les jeunes de quartier qui viennent animer ça. Et on fait aussi des vadrouilles en espace public. Je pense aujourd'hui qu'on a le parc du Port de Ninove
pour aller voir là aussi comment est-ce qu'on peut remettre un peu d'ambiance dans cette ville.
Excellent.
Alors, ça c'est William et Philippe, c'est partie du staff. Tout le reste qui est là, c'est les bénévoles. William, c'est notre chef. Je vais juste présenter à toute l'équipe.
Ok.
Les gars, je peux avoir une minute ? Une petite minute. J'aimerais bien vous présenter quelqu'un. C'est Arnaud. Arnaud, c'est un journaliste pour la RTBF. Et il vient de faire des enregistrements audio. Et il veut parler de la démocratie et comment certaines personnes ne peuvent pas participer à la démocratie. Et dans quel monde on vit. Alors je pense que Arnaud, il va passer un peu de temps avec vous en cuisine. Je veux vous encourager, si vous avez quelque chose à dire, d'aller le parler, de lui dire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de frein. Si vous êtes mal à l'aise, vous n'avez pas envie de parler, je vous lui dis, monsieur Arnaud, moi je préfère pas et c'est très bon aussi. Ok ?
Ok, les gars.
Affairé derrière d'immenses casseroles posées sur des réchauds, William distribue le travail dans une bonne humeur communicative.
You have a bowl. Frère, de l'eau, c'est bon. Ok, great. It's ok. Ouais, parfait. Ici, s'il te plaît. Ici.
Parmi les bénévoles présents, venus donner de leur temps pour préparer des repas qui seront distribués plus tard dans la journée, il y a Barry, 50 ans, qui ne vient pas seulement pour préparer la soupe.
Nous qui sommes invisibles dans ce pays, on peut devenir visibles et exprimer nos idées par rapport à la situation sociopolitique de la Belgique, surtout à l'asile et à l'immigration.
Cela fait 21 ans que Barry est en Belgique, mais il n'a toujours pas de papier. Toutes ses démarches administratives pour obtenir l'asile ont échoué. Du coup, son quotidien est une vie de débrouille, une vie semi-cachée.
Pour subvenir à nos besoins de loyer, de nourriture, d'habillement et tout ce qui s'ensuit, nous faisons des travaux au noir où nous ne sommes pas reconnus. Et là, c'est l'employeur qui gagne et il nous exploite. Il nous paye à 3,05 € par heure. Et vraiment, même si on a des accidents, on n'a pas là où se plaindre. Parfois, on risque même de ne pas percevoir nos salaires. Et à partir du moment où on fait un contrat avec un employeur au noir, et c'est lui qui devient notre patron pendant la durée du contrat de travail. Et nous aussi, dans ce cas, on a beaucoup de risques, le risque accidentel, et voire même d'arrestation en cas de contrôle de police et éventuellement une expulsion.
Même réflexion chez Delia et Konga, qui prend 2 minutes de pause après avoir nettoyé des dizaines de bacs alimentaires au Karcher. Lui vient du Congo et il vit depuis plus de 10 ans déjà en Belgique.
Imagine-toi, je suis ici pendant 10 ans. Mais j'ai contribué à l'économie, je paye et j'achète des trucs dans des supermarchés, des shopping, je fais tout. Je paye la TVA. C'est une contribution. On ne me retourne pas ça. Mais je suis là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus pour que nous sommes déjà intégrés. Mais nous avons la volonté. C'est seulement le bout de papier là qui fait blocage.
Malgré ça, ils viennent tous les deux, plusieurs fois par semaine, bénévolement, pour trouver leur place, pour trouver du sens. D'ailleurs, Barry me fait cette dernière réflexion.
Nous aussi, maintenant, si on se retourne dans nos pays d'origine, il faut qu'on s'intègre. Dans la mesure où moi, personnellement, j'ai fait 21 ans en Belgique sans un titre de séjour. Et me retourner dans mon pays d'origine, ça va être une très grande difficulté pour m'intégrer.
Mmh. Ouais. Bah oui. Et c'est quoi votre pays d'origine ?
Moi, je suis de la Guinée.
On estime qu'il y a en Belgique quelques 150 000 personnes sans papiers. Et dans ses calculs, la Banque nationale évalue que l'économie souterraine représente 4% du produit intérieur brut de notre pays. Pour ne pas rester au rayon des constats, retournons chez Céline Nieuweneus, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, et projetons-nous avec elle dans la ville de demain, dans ses utopies. Prenons quelques crayons, une feuille, et dessinons un quartier qui permettrait à ses yeux que chacun trouve démocratiquement sa place dans la société.
Mais alors, je dis toujours, c'est d'abord un quartier qui se construit à partir des... Alors là, plutôt des plus fragiles physiquement. C'est important quand on construit une ville, mais avant tout un quartier, de se dire, est-ce que ce quartier est agréable, jouable, vivable pour une petite vieille avec son déambulateur et pour un enfant qui a un an et demi et qui trébuche tous les 3 mètres. La deuxième chose que je vois, en fait, quand je vois un quartier comme ça, je vois un quartier où il y a des espaces communs, parce que ces espaces communs vont permettre de créer du commun. Dans un quartier, ce qu'il faut d'abord pour créer quelque chose, c'est du lien. Et s'il n'y a pas d'espace pour vivre des liens, s'il y a d'ailleurs de moins en moins d'espace pour vivre des liens, si on empêche ces espaces de peur qu'il s'y passe d'autres choses que des liens, par exemple... des rassemblements de jeunes, etc., alors ça va empêcher tout lien de se tisser. Et donc, qu'il y ait des espaces qui soient construits et dont on peut offrir une partie de la gestion aux habitants. Et ça, moi, j'ai le souvenir d'un projet participatif que j'avais suivi dans un service social à Liège, où le service social avait... proposer à un groupe de personnes qui partageaient en commun le fait d'aller chercher des colis alimentaires, elle leur avait offert la possibilité d'occuper un petit local, quand ils le souhaitaient, quand ils en avaient envie, et pour créer des activités ensemble. Bien, ça peut paraître un détail, mais j'ai jamais vu un groupe d'entraide aussi puissant, aussi fort que ce groupe-là, parce qu'en bénéficiant de cette confiance d'avoir la clé, pour gérer un local, d'y aller quand on veut, de se faire un café, d'y aller pour causer, d'y aller pour créer, d'y aller pour imaginer, de manière libre, pas sortir de ces idées de carcan, de « il faut s'inscrire, et alors il faut s'inscrire, et puis venir entre 17h et 18h ». Des espaces d'appropriation extérieurs et intérieurs qui permettent de créer du lien avec, évidemment, si et là, des moteurs, qu'ils soient des habitants, qu'ils soient des travailleurs sociaux, que ce soit des infirmiers communautaires de la maison médicale, on s'en fout quelque part. Mais avec des gens qui ont du temps à accorder à ça, qui ont du temps à accorder un projet pour mettre en lien l'école du quartier et les personnes âgées qui se sentent seules, qui ont la possibilité de construire un projet de cuisine de quartier pour pouvoir cuisiner et faciliter le quotidien d'une série de familles. Enfin, donc, pour moi, c'est des espaces pour les gens, par les gens. Pour moi, s'il y avait déjà ce socle-là, et du temps de professionnels et de non-professionnels pour créer des projets.
Centrale aussi, selon Céline Nieuweneus, la question de l'emploi, du travail. Elle plaide par exemple pour les initiatives « territoire zéro chômeur » telles que déjà pas mal pratiquées en France, où l'on développe des entreprises à but d'emploi, c'est-à-dire qu'on crée l'activité en fonction du profil des personnes demandeuses d'emploi et des besoins d'un quartier.
Depuis 3 ans, David a un CDI. Il travaille à l'EBE 58, une entreprise à but d'emploi.
Je suis resté 5 ans au chômage. Chercher du travail, c'était dur parce qu'il n'y avait pas de voiture. Donc ça, c'était l'aubaine. Un travail qui tombait à 200 mètres de chez moi, il ne fallait pas rater ça, surtout pas. Vous ne travaillez pas, vous rentrez chez vous, vous êtes chez vous, vous sentez inutile. Vous ne savez rien, hein. Papa, il ne sert à rien qu'on ne travaille pas. Vous savez, quand vous arrivez dans la cinquantaine, vous dites, ça y est, c'est mort. Hein. On ne veut plus moi, je suis à la retraite, ça y est, je suis vieux. Mais non.
Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis que vous travaillez ici?
Ben, le moral. Surtout le moral, quoi. Ça fait du bien de bosser. Moi, vous avez un salaire qui tombe tous les mois.
En effet, c'est renverser cette logique de dire, nous, et surtout après une crise comme celle-ci, de dire nous allons attendre de voir ce que le marché va nous offrir. Or, on voit bien qu'avec cette crise, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va offrir des emplois de plus en plus précaires. Et donc, quelque part, ne va faire que renforcer cette dualisation dans la société, cette fracture dans la société. Et donc, en effet, c'est renverser cette idée-là et de dire eh ben, le marché ne répond pas à une logique de quels sont les besoins sur le territoire, il répond à une autre logique. Et donc, c'est de dire, ben, finalement, il y a énormément de besoins, et surtout à la fois en termes environnementaux et en termes de services. C'est vraiment cette idée du donut, quelque part, qu'est-ce qui est utile pour les gens et qu'est-ce qui est bon pour la planète. Et là, on voit déjà une étincelle d'autre chose qui naît.
Ceci dit, on parle là d'emplois qui seraient en partie subsidiés. Or, on sait que les finances publiques sont sous pression. On sait aussi que du coup, politiquement, on veut démontrer que chaque euro est utilisé le plus efficacement possible, qu'on n'entretient pas une politique d'assistanat où certains profiteraient du système. Du coup, est-elle vraiment finançable et défendable face à l'opinion publique, cette politique prônée par Céline Nimonoïs ?
D'abord, la première chose, c'est que les politiques d'activation, si on les évalue, elles sont un échec majeur. Si les politiques d'activation avaient créé de l'emploi, ça saurait. Le problème se situe ailleurs, il n'y a pas assez d'emplois et il y a trop de personnes qui sont sans emploi. Ensuite, la précarité coûte un pont à l'État. Elle coûte un pont à l'État. Le fait de ne rien faire depuis des années, ça coûte un pont. Et donc, on voit des appels à projets qui pullulent dans tous les sens pour des projets d'aide alimentaire, pour repeindre les locaux d'un service social. Il y a un pognon de dingue qui est dépensé, finalement, pour gérer la pauvreté. Et c'est là qu'on dit, eh bien, si une partie de cet argent pouvait contribuer à autre chose que de gérer la pauvreté, parce que si elle ne sert qu'à gérer la pauvreté, finalement, eh bien, le sans-abri ne trouve jamais de logement et continue à passer des urgences de Saint-Pierre à l'hébergement d'urgence. Et comme on le sait, l'hébergement d'urgence et l'hôpital, ça coûte très cher. Ça coûte bien plus cher, d'ailleurs, qu'un logement. Et donc, même dans un calcul froid, en fait, les mécanismes de contrôle, même dans un à la fraude sociale, même dans un calcul froid, il coûte probablement plus cher que ce que coûte la fraude. Eh bien, c'est la même chose pour l'activation. Donc non, ça ne va pas coûter plus cher. Oui, il faut sortir d'une vision court terme. Oui, il faut construire une vision long terme. Oui, ça va faire mal. Oui, ça va être difficile.
Et la secrétaire générale de la Fédération des services sociaux termine par un appel du pied au monde politique.
J'aurais envie de proposer à toutes les personnes qui mettent un pied dans un gouvernement, dans un parlement, de passer une semaine dans un service social, même dans la salle d'attente, à discuter avec les gens. Il y a quelque chose, en tout cas, qui me semble qu'il faudrait faire pour sortir des discours théoriques. Et je pense, en effet, que quand on passe de la rue de la Loi avec un chauffeur à des quartiers huppés, je pense, en effet, qu'on ne voit plus. On ne comprend plus, on ne voit plus, d'autant que c'est invisible. Il faut même parfois faire un petit effort pour le voir.
C'était le deuxième épisode de Démocratie en question, une série réalisée pour La Première, avec le soutien du Fonds pour le journalisme. À la réalisation sonore, Jonathan Remy. Prochain rendez-vous de notre road movie démocratique, on ira frapper à la porte des parlements. Se sont-ils endormis, ces parlements, pendant la crise sanitaire? Ce sera l'épisode 3. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez vous exprimer aussi dans le cadre de cette série, vous pouvez le faire à l'adresse suivante démocratie@rtbf.be, démocratie au singulier et sans accent @rtbf.be. Votre avis nous intéresse, vos remarques, vos suggestions pour revitaliser la démocratie. Notez que tous les épisodes sont à retrouver sur Ovio ainsi que sur toutes les plateformes de téléchargement.